La Sociale Le Mag, un podcast de la Cour de cassation. La jurisprudence de la Chambre sociale, racontée par ceux qui la font.
Avec aujourd'hui les conseillers référendaires Alice Laplume
et Alain Carillon.
Bonjour Alice. Avant de faire un focus sur des arrêts récents que nous décrypterons ensemble, nous commençons par évoquer l'actualité de la Chambre sociale de la Cour de cassation avec deux décisions du 10 janvier 2024. Dans le prolongement du précédent podcast de janvier 2024, dans lequel nous évoquions deux arrêts rendus en matière d'inaptitude, revenons sur deux arrêts rendus le 10 janvier dernier.
Ces deux arrêts sont intéressants, Alain, car ils réaffirment l'obligation pour l'employeur de reprendre le paiement du salaire dans le délai d'un mois, à compter de la date de l'examen médical de reprise, lorsque le salarié déclaré inapte par le médecin du travail n'est ni reclassé ni licencié. Cette obligation est prévue par les articles L1226-4 du Code du travail en cas d'inaptitude consécutive à un accident ou une maladie non professionnelle et L1226-12 du même Code en cas d'inaptitude consécutive à un accident du travail ou à une maladie professionnelle.
Dans le premier de ces arrêts, la question à laquelle la Cour de cassation devait répondre était la suivante. L'employeur qui propose un poste conforme aux préconisations du médecin du travail, mais qui a ensuite été refusé par le salarié inapte, est-il déchargé de l'obligation de reprendre le paiement du salaire ?
C'est tout à fait cela. Mais pour bien comprendre pourquoi cette question s'est posée, il faut d'abord rappeler que les textes relatifs à l'obligation de reclassement par l'employeur du salarié déclaré inapte ont été modifiés par le législateur en 2016, pour mettre un terme à la jurisprudence de la Cour de cassation, selon laquelle le refus du salarié déclaré inapte à un poste de reclassement n'impliquait pas à lui seul le respect par l'employeur de son obligation de reclassement. La Cour de cassation exigeait en effet de l'employeur qu'il démontre qu'il ne disposait d'aucun autre poste compatible avec l'inaptitude du salarié au besoin par la mise en œuvre de mesures telles que mutation, transformation de poste ou aménagement du temps de travail.
Au terme de cette jurisprudence, les juges du fond ne pouvaient dire que l'employeur avait respecté son obligation de reclassement sans vérifier s'il avait à la fois procédé à toutes les recherches de postes disponibles et proposé à l'intéressé toutes les solutions envisageables.
Oui, mais désormais, les nouveaux articles L1226-2-1 et L1226-12 du Code du travail dispose que l'obligation de reclassement est réputée satisfaite lorsque l'employeur a proposé un emploi dans les conditions prévues aux articles L1226-2 et L1226-10 du même Code. Il suffit donc désormais que le salarié ait reçu une seule proposition de reclassement conforme aux préconisations du médecin du travail pour que l'employeur soit présumé avoir rempli son obligation de recherche de reclassement.
Ces modifications législatives sont-elles susceptibles d'avoir une incidence sur la jurisprudence constante de la Cour de cassation, selon laquelle l'obligation de reprise du paiement des salaires s'impose même lorsque le salarié refuse des propositions de reclassement conformes aux conclusions du médecin du travail ?
Précisément par cet arrêt, la Cour de cassation a réaffirmé l'autonomie de l'obligation de reprise du paiement du salaire par l'employeur dans le délai d'un mois à compter de la date d'examen médical de reprise du travail par rapport à son obligation de reclassement. En l'espèce, le salarié, agent de sécurité, avait été déclaré inapte le 5 février 2020. Le médecin du travail indiquant au terme de son avis d'inaptitude qu'il pouvait, au titre de ses capacités restantes, occuper un poste similaire sur un autre site sans travail de nuit. Quelques jours plus tard, l'employeur lui adressait une proposition écrite de reclassement portant sur un emploi d'agent de sécurité en journée sur un autre site, proposition refusée par le salarié. l'employeur engageait une procédure de licenciement pour faute grave en raison de l'absence injustifiée du salarié, mais cette procédure n'aboutissait que le 16 juin suivant en raison des événements liés à la Covid-19. Entre-temps, l'employeur, n'ayant pas repris les paiements des salaires, le salarié avait saisi le président du conseil de prud'homme statuant référé afin de demander un rappel de salaire à compter du mois suivant l'examen médical de reprise, faisant valoir qu'alors il n'avait été ni reclassé ni licencié. L'employeur soutenait quant à lui que la proposition écrite de reclassement étant conforme aux conditions prévues par le Code du travail, l'obligation de reclassement était réputée satisfaite, de sorte qu'il n'avait pas à reprendre le paiement du salaire au salarié qui avait refusé cette proposition.
La Cour de cassation juge que la circonstance que l'employeur est présumé avoir respecté son obligation de reclassement en proposant au salarié déclaré inapte un emploi prenant en compte l'avis et les indications du médecin du travail ne le dispense pas de verser au salarié qui a refusé cette proposition de reclassement et qui n'a pas été reclassé dans l'entreprise à l'issue du délai d'un mois à compter de la date de l'examen médical de reprise ou qui n'a pas été licencié, le salaire correspondant à l'emploi qu'il occupait avant la suspension du contrat de travail.
Le second arrêt, rendu le même jour, est quant à lui relatif au point de départ du délai d'un mois pour reprendre le paiement du salaire, en cas de contestation de l'avis d'inaptitude par l'employeur ou le salarié, conformément à l'article L4624-7 du Code du travail.
Nous avons déjà évoqué cette procédure de contestation des avis du médecin du travail dans les podcasts numéro 13 de janvier 2023 et numéro 23 de janvier 2024. Mais cet arrêt apporte deux précisions importantes.
Oui, dans cet arrêt, l'employeur estimait que la modification par la loi du 8 août 2016 de cette procédure, transférant au Conseil de prud'homme le contentieux de la contestation de l'avis d'inaptitude antérieurement dévolu à l'inspecteur du travail, justifiait de retarder la reprise du paiement du salaire, tel que prévu par l'article L1226-4 du Code du travail. Mais la Cour de cassation a rejeté le pourvoi, en décidant que l'exercice du recours prévu à l'article L4624-7 du Code du travail ne suspend pas le délai d'un mois imparti à l'employeur.
Elle n'a donc pas modifié sa jurisprudence antérieure.
Absolument. La Cour de cassation jugeait en effet avant la réforme que le délai d'un mois était un délai préfixe, ne pouvant ni être prorogé ni être suspendu, et que ce délai n'était pas suspendu par le recours exercé devant l'inspecteur du travail.
Mais ce n'est pas le seul apport de cet arrêt. Quel est le second ?
L'employeur mettait en doute l'impartialité objective du médecin inspecteur du travail qui avait été désigné par le Conseil de prud'homme pour accomplir la mesure d'instruction prévue par l'article L4624-7 du Code du travail.
On rappellera que ce texte prévoit que le Conseil des prud'hommes, saisi d'une contestation portant sur les avis, propositions, conclusions écrites ou indications émis par le médecin du travail, et notamment sur l'avis d'inaptitude, peut confier toute mesure d'instruction au médecin inspecteur du travail territorialement compétent pour l'éclairer sur des questions de fait relevant de sa compétence.
L'employeur considérait que ces dispositions étaient contraires à l'article 6, paragraphe 1 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, puisque la mesure d'instruction est confiée au médecin inspecteur du travail qui intervient, par ailleurs, en qualité de conseil des médecins du travail dans le cadre de sa mission de contrôle des services de santé du travail.
Cependant, la Cour de cassation a rappelé dans son arrêt du 10 janvier 2024 que, selon la Cour européenne des droits de l'homme, qu'il a affirmé dans un arrêt du 5 juillet 2007, l'expert, entendu par le tribunal, ne doit pas répondre aux mêmes exigences d'indépendance et d'impartialité que ce même tribunal.
Absolument. Et analysant les textes régissant l'exécution de la mesure d'instruction confiée au médecin inspecteur du travail, la Cour de cassation a relevé d'une part que l'article L4624-7 du Code du travail prévoyait que l'employeur pouvait à cette occasion mandater un médecin pour prendre connaissance des éléments médicaux ayant fondé les avis, propositions, conclusions écrites et indications émis par le médecin du travail, et d'autre part que l'article R4624-45 du même code autorisait la récusation du médecin inspecteur du travail lorsqu'il avait été consulté par le médecin du travail avant de prendre son avis.
Et la Cour de cassation en a déduit que le droit à un procès équitable était, à l'occasion de l'exécution de la mesure confiée au médecin inspecteur du travail, garanti par ces textes. Et nous poursuivons la Sociale Le Mag avec notre décryptage qui porte sur les transferts d'entreprise et particulièrement sur la notion d'entité économique autonome.
Mais Alain, si l'actualité des arrêts rendus par la Cour de cassation nous invite à aborder cette question, nous n'avons jamais consacré de podcast au transfert d'entité économique.
Non Alice, en effet. C'est probablement parce que la question du transfert d'entreprise recouvre des réalités très diverses, telles que la vente d'entreprise, la fusion de sociétés, la mise en location-gérance, mais aussi la cession d'une branche d'activité, le recours à la sous-traitance ou à un prestataire de services, ou la reprise par une collectivité publique d'une activité précédemment gérée par une personne de droit privé.
Avant d'aborder les apports marquants de la jurisprudence dans l'année écoulée, il n'est pas inutile de faire un point sur l'environnement juridique du transfert d'entreprise, sur le rôle des juges du fond et sur le contrôle de la Cour de cassation.
Oui. Pour notre premier podcast sur ce thème, rappelons que dans le souci de protéger les salariés en cas de changement dans la situation juridique de leur employeur, le législateur français a affirmé la règle d'ordre public du maintien des contrats de travail lorsque l'entreprise est transférée. Cette règle est aujourd'hui consacrée à l'article L1224-1 du Code du travail.
Cet objectif est partagé par le droit communautaire qui irradie pleinement notre droit positif, avec notamment la directive numéro 2001-23-CE du Conseil du 12 mars 2001, dite « directive transfert ».
En effet, son article 1, paragraphe 1, petit b, définit le transfert d'entreprise comme « celui d'une entité économique maintenant son identité », entendu comme un ensemble organisé de moyens en vue de la poursuite d'une activité économique, que celle-ci soit essentielle ou accessoire.
Et la Cour de justice de l'Union européenne a rappelé que le critère décisif pour établir l'existence d'un transfert au sens de la directive est de savoir si l'entité économique transférée garde son identité.
S'inspirant de la jurisprudence de la Cour de justice de l'Union européenne, la Cour de cassation juge que l'article L1224-1 du Code du travail, interprété à la lumière de la directive transfert de 2001, s'applique en cas de transfert d'une entité économique autonome qui conserve son identité et dont l'activité est poursuivie ou reprise, c'est-à-dire au transfert d'un ensemble organisé de personnes et d'éléments corporels ou incorporels permettant l'exercice d'une activité économique qui poursuit un objectif propre.
Mais comment les juges du fond doivent-ils procéder pour caractériser cette entité économique autonome ?
Eh bien, le juge doit suivre un raisonnement en trois temps. Vérifier l'existence d'une entité économique autonome. Déterminer l'identité de cet ensemble à partir des éléments d'exploitation matériels ou immatériels. Et par comparaison, apprécier si l'entité économique autonome a été transmise à un nouvel exploitant, si elle a conservé son identité et si l'activité antérieurement exercée est poursuivie.
D'accord. Et quel est le niveau de contrôle que la Cour de cassation exerce ?
Classiquement, l'appréciation de l'existence du transfert des éléments corporels et incorporels relève du pouvoir souverain des juges du fond. La qualification des notions d'entité économique autonome et de transfert d'une telle entité, ainsi que les conséquences légales que les juges du fond tirent de leurs constatations, font l'objet d'un contrôle approfondi que nous appelons « lourd » de la part de la Cour de cassation.
Le cadre étant posé, abordons la jurisprudence récente de la Cour de cassation autour de trois thèmes. Le caractère exploitable de l'entité économique autonome, le niveau, entreprise ou groupe de société auquel son existence est appréciée et les éléments qui composent cette entité.
Très bien. Commençons donc avec le caractère exploitable de l'entité économique. Cette question se pose particulièrement en cas de retour du fonds loué entre les mains de son propriétaire au moment de la résiliation du contrat de location-gérance. Dans cette hypothèse, en principe, les dispositions de l'article L1224-1 s'appliquent.
C'est vrai, mais toutefois à la condition que le fonds subsiste au moment du transfert et que son exploitation soit susceptible d'être poursuivie. C'est ce que la Cour de cassation a réaffirmé par un arrêt publié du 20 avril 2022, selon lequel le propriétaire est tenu de poursuivre les contrats de travail du personnel attaché à l'entité dès lors que celle-ci demeure exploitable au jour de sa restitution par le gestionnaire.
Oui, il faut alors déterminer quand une entité est exploitable et quand elle ne l'est plus. L'entité n'est plus exploitable lorsque toute activité a pris fin et que l'entreprise a disparu ou que le fonds est en ruine. En revanche, la Cour de cassation a rappelé dans un arrêt du 20 septembre dernier une jurisprudence bien établie selon laquelle le caractère inexploitable du fonds ne peut résulter de la seule décision du bailleur de ne pas en poursuivre l'activité. Elle a en effet décidé que la résiliation du contrat de location-gérance par le propriétaire du fonds de commerce constituant une entité économique autonome entraîne le retour du fonds loué au bailleur. Ce dernier est tenu de poursuivre les contrats de travail du personnel attaché à l'entité dès lors qu'elle demeure exploitable au jour de sa restitution par le locataire.
Poursuivons par le niveau d'appréciation de l'entité. Son existence doit-elle être appréciée au sein d'une seule et même entreprise ou peut-elle être caractérisée au niveau d'un groupe de sociétés ?
La jurisprudence judiciaire avait déjà admis que constituer une entité économique autonome, l'entité issue du regroupement de services communs à des entreprises distinctes formant une même unité économique et sociale, et que l'application de l'article L1224-1 est indépendante des règles d'organisation ou de gestion d'un service. De son côté, la jurisprudence administrative a dit qu'une entité économique autonome peut résulter de deux parties d'entreprises distinctes d'un même groupe. S'inscrivant dans cette évolution, la Cour de cassation a jugé le 28 juin 2023 que l'existence d'une entité économique autonome est indépendante des règles d'organisation, de fonctionnement et de gestion du service exerçant une activité économique, en sorte qu'une telle entité économique autonome peut résulter de deux parties d'entreprise distinctes d'un même groupe.
On voit bien ainsi que l'entité économique peut résulter de l'addition de plusieurs parties d'entreprise distinctes et s'entendre non seulement d'une entreprise ou d'une partie d'entreprise, mais aussi d'une partie d'un groupe de sociétés. On sent bien que la détermination de la finalité économique propre devient particulièrement complexe lorsque l'entreprise n'est cédée que partiellement et elle est encore plus en présence d'une cession d'éléments d'actifs isolés.
Oui, et c'est justement la question à laquelle la Chambre sociale a eu à répondre dans un arrêt du 20 décembre dernier. Le transfert concerné était celui d'une activité de transport aérien de passagers. La société cessionnaire ayant repris des biens corporels, avions, installations, outillages, des biens incorporels, marques, noms de domaine, droits d'auteur et des savoir-faire. Le pourvoi soutenait qu'il ne pouvait y avoir transfert d'une entité économique autonome qu'en cas de cession totale ou partielle de l'entreprise et non pas en cas de cession isolée d'actifs dans le cadre des articles L642-18 à L642-21 du Code de commerce, qui ne formulent aucun objectif de maintien de l'emploi. L'arrêt du 20 décembre 2023 reprend une jurisprudence bien établie selon laquelle la décision du juge-commissaire d'ordonner la cession d'éléments d'actifs en application des dispositions de ces articles du Code de commerce n'est pas de nature à faire échec à l'application de l'article L1224-1 du Code du travail qui ne dépend que du seul transfert d'une entité économique autonome. Il réaffirme que le fait qu'une cession ordonnée à l'occasion d'une procédure collective ne concerne que certains des actifs de la société liquidée n'est pas de nature à faire échec à l'application de l'article L1224-1.
Oui, et dans cette affaire, les juges du fond ont pu déduire le transfert d'une unité économique autonome de la reprise des moyens corporels et incorporels significatifs nécessaires à la poursuite de l'activité de transport aérien de passagers, peu important que l'acquéreur des actifs ait, après la cession, décidé d'abandonner certaines activités.
Et pour finir, évoquons l'hypothèse où le transfert a lieu en raison de la perte d'un marché.
D'une façon générale, l'application de l'article L1224-1 n'est pas exclue en cas de changement de prestataire de service sur un marché, mais ce texte est souvent écarté faute de pouvoir caractériser l'existence du transfert d'une entité économique autonome, puisqu'il s'agit de secteurs où l'activité repose essentiellement sur la main-d'œuvre, sans transfert d'équipement.
C'est exact. Et précisément, la question posée par le pourvoi ayant donné lieu à un tout récent arrêt du 31 janvier 2024 était de savoir si l'existence d'une entité économique autonome suppose nécessairement l'existence d'un personnel d'encadrement ou s'il s'agit d'un indice parmi d'autres. Dans cette affaire, il était question d'un marché de prestations de chargement et de déchargement de colis légers dits « vrac ». La société qui avait confié ce marché avait mis à disposition le matériel nécessaire et la société sortante avait affecté à cette prestation plusieurs salariés. Au moment de la perte du marché, le personnel subsistant n'était constitué que des manutentionnaires, le personnel encadrant ayant quitté l'entreprise ou changé d'affectation en interne.
Cette absence de personnel encadrant exclut-elle la reconnaissance d'une entité économique autonome ?
Absolument pas. La Cour de cassation a au contraire jugé, à la lumière de la directive transfert de 2001, qui distingue la notion d'identité de celle d'autonomie, que la circonstance que deux des salariés encadrant l'activité n'aient pas été repris par le nouvel entrepreneur ne suffisait pas à exclure l'existence d'un transfert d'une entité économique maintenant son identité. Elle a retenu l'existence d'un transfert d'entité économique autonome dès lors que la société entrante avait repris le marché de prestations logistiques confié à la société sortante et poursuivi, dans les mêmes locaux et avec les mêmes équipements, la même activité à laquelle étaient affectés les salariés manutentionnaires.
C'est la fin de notre podcast. Les arrêts du 10 janvier 2024 publiés au bulletin peuvent être retrouvés sur le site de la Cour de cassation avec les numéros de pourvoi 21 20 229, 22 13 464, ainsi qu'à la lettre de la Chambre sociale numéro 24 de janvier et février 2024. Vous trouverez par ailleurs les références des arrêts cités dans ce podcast, notamment ceux du décryptage, sur le site internet de la Cour de cassation, rubrique kiosque. Merci Alain.
À bientôt Alice.